Mola Archives Sonores.
J'introduirai très rapidement le texte de Claude Lanzmann, Le Lièvre de Patagonie, en évoquant, mais forcément c'est un point de départ, donc c'est forcément subjectif et forcément à côté de ce qu'on voudrait de ce qu'on voudrait être comme essentiel, mais c'est à côté, je pense, et dans le livre lui-même. Et c'est ce qui m'intéresse notamment. J'étais très frappé à la lecture du livre de Claude Lanzmann par l'évocation dans le chapitre 1 de toutes les évocations des morts. Le livre s'ouvre par le mot guillotine. Il se termine à la fin de l'ouvrage par « comme 20 ans », par une évocation de l'âge 20 ans. Et entre les deux, on pourrait dire que c'est une vie au sens indéterminé du terme, au sens aussi d'un inachèvement fondamental qui est ressaisi dans un siècle à travers un ensemble d'événements, à travers notamment les références aux différentes guerres traversées par Claude Lanzmann. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est justement cette évocation d'une vie dans le monde. Le texte se termine par une référence, d'où le titre, Le Lièvre de Patagonie, à l'incarnation. Au fond, entre la guillotine du départ qui prive les existences de la possibilité d'être vécues en les rendant à jamais inachevées, et cette ode qui termine le livre à l'incarnation, il y a comme effectivement toute une expression de la précarité de la vie. Et donc la question alors, plusieurs questions émergent nécessairement. Qu'est-ce que c'est qu'une vie quand elle est ainsi renvoyée à la mort? Comment faire avec cette vie? Peut-on être assuré de produire et d'agir d'une façon juste à l'intérieur de cette vie? Ce sont des questions qui sont au cœur du livre de Claude Lanzmann. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, et c'est là-dessus juste que je voudrais ouvrir la discussion avec lui et vous laisser bien sûr ensuite la parole dans un dialogue avec Claude Lanzmann, c'est pourquoi il me semble que ce livre est davantage qu'une autobiographie ou qu'un ensemble de mémoires. Il est plutôt une longue méditation sur l'incarnation à travers toutes les variantes et les formes centrales de cette incarnation, l'amour, l'amitié, la politique. Et dans cette réflexion sur l'incarnation, il y a, me semble-t-il, plusieurs énoncés extrêmement forts. En particulier, j'étais très sensible à l'un des énoncés de point de départ sur l'universalité des victimes et des bourreaux. Et donc, je voudrais peut-être juste ouvrir la discussion en vous demandant si, pour vous, ce texte n'est pas davantage qu'une autobiographie, un livre fait du bruit et de la fureur du monde, fait aussi des formes de toute vie. Et de ce coup, et de ce fait-là, est-ce que, si c'est le cas, au fond, est-ce que vous pourriez dire quelque chose, peut-être de prolonger cette réflexion sur le caractère universel des victimes et des bourreaux qui ouvre votre livre dans ce chapitre 1 si impressionnant?
Bon, j'espère que mon livre est tout de même un peu plus marrant que...
Vous savez, j'ai forcément le mauvais rôle puisque j'introduis.
Non,
et donc,
on peut. Donc,
le mieux, c'est de vous laisser la parole et d'arrêter d'introduire.
Non,
donc,
non, ça va.
Ne tapons pas sur l'homme introduisant entrant dans le livre. Ouais.
C'est introduit, il n'y avait plus de problème. Mais d'abord, le livre est drôle. Il y a des choses. Vous êtes bien d'accord avec moi tout de même. Le livre est espiègle aussi, non?
Oui, mais moi, je ne l'ai pas vu comme un livre. Pour moi, la broderie n'est pas une marque obligée de tout livre.
Il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des histoires d'amour, d'abord.
Oui, tout à fait. Oui.
Bon, très importante. Il y a des histoires de sexe également. Faut pas...
Donc vive le sexe et à bas la mort.
Faut pas le nier. Non, mais moi j'ai envie de le vendre, mon livre.
C'est bien pour ça que je dis ça.
Alors, y a tout ça, mais c'est un drôle de livre. Enfin, vous avez raison là-dessus. Et puis vous dites le livre s'ouvre par la mort. Enfin, c'est pas tout à fait exact.
Le premier mot, c'est guillotine.
Ah oui, bah, la guillotine. Qu'est-ce que c'est que la guillotine? C'est l'administration de la mort. Mmh. C'est la mort.
La mort donnée. Ouais, ouais,
c'est la mort violente. Ouais, ouais, ouais. Bon. Et c'est une réflexion sur les modes d'administration de la mort, le premier chapitre, à travers, enfin, dans les différents pays et les différents modes d'administration de la mort. Ça commence par ma haine totale de la peine de mort.
La peine de mort, ouais.
Bon. Alors que ce soit la guillotine, la chaise électrique, ouais. La décapitation à la hache, au sabre, tous les modes d'inhumanité singuliers qui existent dans les États où la peine de mort n'est pas encore abolie. Bon, et puis, c'est en effet, je suis obligé d'aller vite quand même parce que le temps nous est compté. Ce livre s'ouvre là-dessus, se termine par les 150 dernières pages ou les 130 dernières pages. Ouais, c'est tout de même, je dis des choses que je n'ai jamais dites sur la façon dont j'ai réalisé le film Shoah. Shoah, qu'est-ce que c'est sinon la mort administrée? Et en même temps, vous avez cette ouverture avec la peine capitale et puis la fin et Shoah. Bon, mais le livre est véritablement un hymne à la vie. Je crois que on peut dire ça. Il n'y a que la vie. C'est ce que je pense profondément. D'ailleurs, il y a eu un film tourné sur moi qui est passé à la télévision sur France 5, qui est dans la collection Empreinte. Et on m'a demandé quel était le titre que je souhaitais donner à ce livre. Et j'ai eu un peu de mal à faire accepter ça. Mais je suis entêté. Et le titre, c'est « Il n'y a que la vie ». Bon, et la seule transcendance pour moi, c'est la réincarnation. J'espère me réincarner en lièvre, d'où le titre « Le lièvre de Patagonie ». Parce que je ne sais pas quels sont ceux d'entre vous qui ont vu mon film « Shoah ». Mais dans Shoah, il y a deux plans très, très rapides, des plans sans insistance, où l'on voit Auschwitz-Birkenau, à l'époque où j'ai tourné là-bas, en plein hiver, par grand froid. On voit deux lièvres qui tentent de franchir un réseau très serré de barbelés. Bon, et ils ne le peuvent pas et ils semblent réfléchir. Je pense que les animaux sont intelligents. Et ils réfléchissent et finalement on les voit. Mais tout ça est très rapide dans le film. On les voit affaisser leurs pattes arrière et puis ramper littéralement sous le dernier fil du réseau de barbelés. Et ils réussissent à passer. Et j'ai monté ça dans le film, en jargon technique de cinéma, on appelle ça « on voit l'image et on entend l'image des lièvres, et on entend une voix d'homme, une voix off, comme on dit, parce qu'on ne voit pas le personnage qui parle, on l'entend seulement. Et cet homme est un des deux seuls hommes ayant réussi à s'évader de Auschwitz. Bon, il s'appelait, parce qu'il est mort il y a 2 ans, Rudolf Verba, et c'est un héros inoubliable de courage, d'intelligence, d'imagination, d'invention, enfin, etc. Il était d'ailleurs professeur à l'université de, mon Dieu, de Vancouver, professeur de pharmacologie. C'est un grand savant. Et donc, Verba, qui a réussi à s'évader, comme les lièvres, parle sur les images des lièvres. Et à l'époque, il était interdit, parce qu'il y avait eu trop de morts là-bas, et trop de sang avait coulé, trop de cadavres avaient été réduits en cendres. Il était interdit de tuer même les animaux. Donc les lapins pullulaient, les lièvres aussi, et je ne sais pas où en sont les choses maintenant, l'état des choses, mais enfin je suis sûr que les Polonais doivent organiser des vrais battues pour éliminer les lièvres. Donc ces lièvres me sont doublement précieux. Et quelqu'un à qui j'ai dédicacé le livre tout à l'heure m'a demandé « Mais pourquoi ce titre ?» Alors on en vient en effet un peu à l'essentiel. Bon, j'ai pensé aux lièvres tout au long de la rédaction de ce livre. Oui, j'oublie de vous dire, pardon, que quand j'ai vu ces deux lièvres et quand j'ai filmé ces deux lièvres, il me plaisait d'imaginer que les 6 millions de morts s'étaient réincarnés en lièvres et que ces lièvres, d'une certaine façon, les lièvres que je filmais étaient la symbolisation de cela. Bon, et ça ne me déplairait pas du tout. Et c'est pourquoi je me suis dit après moi-même que, après tout, s'il y avait une autre vie, et l'exergue du livre est tiré d'un poème magnifique, d'un poème en prose, magnifique d'une femme écrivain argentine qui s'appelait Silvana Ocampo, le lièvre doré. Et elle raconte cela à un enfant, je vous le dirai peut-être dans un moment. Et c'est un texte long de 4 ou 5 pages que j'avais appris par cœur, parce que j'aime apprendre par cœur encore aujourd'hui. Comme je suis insomniaque, je me récite des poèmes la nuit, ce qui me rend encore plus insomniaque, évidemment. Ce n'est pas comme compter des moutons. Oui, et donc les Juifs se réincarnaient, les Juifs gazés, se réincarner en lièvre, dans mon esprit un peu fou. Je vais vous dire l'exergue du livre. Comme ça, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. C'est un poème en prose, et c'est comme un conte qu'elle écrit pour un enfant. Un enfant qui s'appelle Jorge, je ne sais pas prononcer l'espagnol, Alberto Aureliana. Bon, et voilà, c'est un extrait simplement, il n'y en a pas pour longtemps, ne vous en faites pas. Tous les lièvres ne se ressemblent pas. Jacinto, c'est le nom de l'enfant. Pas Jorge Alberto Aureliana, c'est un autre, mais il arrive. Tous les lièvres ne se ressemblent pas. Jacinto, et ce n'était pas son pelage, crois-moi, qui le distinguait des autres lièvres, pas plus que ses yeux de tartare ou la forme capricieuse de ses oreilles. C'était quelque chose qui allait bien au-delà de ce que nous, les hommes, nous appelons personnalité. Les innombrables transmigrations de son âme lui avaient appris à se rendre invisible ou visible dans les moments propices à la complicité avec Dieu ou quelques anges audacieux. Pendant 5 minutes, à midi, il faisait toujours une halte au même endroit dans la campagne, les oreilles dressées, il écoutait quelque chose. Le bruit assourdissant d'une cataracte qui fait fuir les oiseaux ou le crépitement d'un bois en feu qui effraie les animaux les plus téméraires n'aurait pas dilaté autant ses yeux. La rumeur fantasque du monde qu'il gardait en mémoire, peuplée d'animaux préhistoriques, de temples semblables à des arbres secs, de guerres vaines et inopportunes, le rendait plus capricieux et plus sagace. Un jour, il s'arrêta, comme à l'accoutumée, à l'heure où le soleil, donnant à pic, empêche les arbres de faire de l'ombre, et il entendit aboyer non pas un chien, mais beaucoup de chiens, dans une course folle à travers la campagne. D'un bond, le lièvre traversa le chemin et se mit à courir. Les chiens le prirent en chasse dans la plus grande confusion. « Où allons-nous ? » criait le lièvre d'une voix tremblante, vive comme l'éclair. « À la fin de ta vie, » criait le chien d'une voix de chien. Voilà, c'est l'exergue du livre. Alors, les transmigrations dont parle Silvina Ocampo, c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Et vous avez parlé tout à l'heure avec ce titre d'incarnation, et c'est le sens profond de ce livre. Il n'y a pas d'opposition entre l'horreur de la mort et l'incarnation, au contraire. Les deux choses fonctionnent absolument ensemble. Et je crois que j'ai un neurone qui vient de sauter, là. Je vais commencer quelque chose, dites-moi.
Non, mais et du coup, qu'est-ce que vous diriez justement sur dans cette relation à l'incarnation? Donc vous avez évoqué différentes formes de vie, au fond.
Une vie faite de plusieurs vies. Alors attendez, j'y viens. Il y a deux façons totalement opposées d'être au monde, d'être dans le monde. Ou bien vous êtes lié profondément, viscéralement, indissociablement au monde, ou bien non, ou bien le monde est un décor dans lequel on passe, dans lequel on est de passage. Et si le monde est un décor, d'une certaine façon, c'est pas très intéressant. Alors, j'ai fait ma réponse à la jeune femme qui m'a posé la question tout à l'heure. Pourquoi ce titre ? J'ai fait 2 voyages en Patagonie, tard dans ma vie. J'étais invité là-bas à Buenos Aires. Il y avait une projection de Shoah et puis j'ai fait des conférences. Et la Patagonie, c'est un mot qui me fascinait. Les mots comptent beaucoup pour moi. Et je voulais à toute force aller en Patagonie. Quand j'étais gosse, quand j'étais en classe d'anglais, il y avait un autre mot qui me fascinait aussi, c'est le mot « Calédonie ». Il y avait un poème de Walter Scott que notre professeur d'anglais nous avait demandé d'apprendre par cœur, qui était « Oh, Caledonia, stern and wild, meet nurse for a poetic child. » Enfin bon, « Oh, Écosse, sévère et sauvage, nourricière pour un enfant pas sauvage, c'est pas exactement le mot, mais pour un enfant capable de comprendre. Bon, alors la Calédonie, la Patagonie. Donc, je décide d'aller en Patagonie seul, mais il y a longtemps, il n'y a pas très longtemps de ça, j'avais 70 ans. Donc, je prends un avion à Buenos Aires, on vole pendant 5 heures, plein sud, et on arrive aux confins de la Terre de Feu. Mais vous, en tant que Bordelais, vous connaissez tout ça bien mieux que moi, enfin, les grands conquistadors, vous êtes. Et j'atterris dans une sorte de ville, pas du Far West, mais du Far South argentin, qui s'appelle Rio Gallegos, qui s'écrit G-A-2-L, qui prononce Gallegos. Et j'ai loué une voiture. Et puis j'ai commencé à remonter vers le nord sur 450-500 kilomètres, la grande plaine aride, quasiment désertique de la Patagonie argentine, me dirigeant vers la frontière du Chili, parce que je voulais voir les formidables glaciers qui appartiennent au patrimoine culturel de l'humanité, le Perito Moreno, etc. C'est un glacier qui... On sent toute la vie du glacier qui gémit, qui la glace se brise, et il faut pas les approcher de trop près parce que de temps en temps le glacier lâche des flèches de glace aiguës et acérées comme des poignards qui transpercent le cœur. Mais ça arrive, c'est arrivé plus d'une fois. Bon, je voulais voir ça. Et alors je remonte la plaine de la Patagonie argentine dans ma bagnole. Et puis je vois ce grand ciel immense, et je me disais, je me parlais à moi-même, je m'interpellais moi-même, je m'apostrophais moi-même. Tu es en Patagonie, mon vieux, tu es en Patagonie, tu es en Patagonie. Tu devrais hurler de joie. Mais j'étais en Patagonie, et la Patagonie demeurait un décor. C'était l'étincelle... Ne s'était pas faite la déflagration. Plus tard, au long de ma route, j'ai rencontré des troupeaux de lamas, de vigognes. Je forçais le ton, mais tu es en Patagonie, tu es en Patagonie. Et ça ne marchait toujours pas. Le monde et moi étions séparés. Et... au crépuscule, enfin il faisait déjà nuit, j'ai quitté la route asphaltée dans un village qui s'appelle El Calafate. Et puis j'ai pris une très mauvaise piste sur une centaine de kilomètres pour arriver au Perito Moreno. Et là, soudain, un grand lièvre a bondi dans le faisceau de mes phares et... Soudain, le bondissement du lièvre, hein, j'étais en Patagonie. La Patagonie devenait vraie, ou plutôt la Patagonie et moi devenions vrais ensemble. Et là, je me suis mis, je le dis, c'est la conclusion de mon livre d'ailleurs, je me suis mis à... tout mon être a bondi d'une joie absolument sauvage. Ça m'est arrivé, l'incarnation était faite. C'est ça, l'incarnation. Et l'incarnation, c'est une chose centrale dans ma vie. C'est lié à l'horreur de la mort. Mais ça peut arriver par mille chemins. Je crois que je le dis encore dans le livre. La première fois que j'ai été à Milan, en Italie, c'était après la guerre, je crois, en 46, 45, je ne sais pas, l'été 1945. Avec quelques copains, on voyageait, je crois, encore dans des wagons de marchandises. Et puis on traverse la Suisse, et puis il y a ces beaux noms qui m'enchantaient, Brieg, le simplon, Domodossola, Stresa, etc. Et j'étais un peu transporté. Et j'arrive à Milan, qui en vérité est une ville assez laide, une lourde ville lombarde. Mais j'étais séduit à Milan par les couleurs, par l'ocre de Milan, par les roses, les jaunes, les rouges. Il n'y a pas ça à Paris. Et bon, je me disais, tu es à Milan, mon petit, tu dois exploser, parce que tu es à Milan. Mais je n'explosais pas. Et puis finalement, j'ai explosé, mais d'une drôle de façon, en traversant la grande place de la cathédrale, la Piazza del Duomo. Soudain, sont revenues à ma mémoire les premières phrases de la Chartreuse de Parme, de Stendhal. Je me suis récité ça, et à nouveau la déflagration s'est faite, ou plutôt ma première déflagration s'est faite. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Ça y est, M. Lanzmann a explosé. Autre explosion d'un autre genre, mais essentiel dans ma vie, dans mon œuvre capitale. Bon, je raconte beaucoup, pour la première fois, j'explique comment j'ai réalisé Shoah. Et j'explique que je ne voulais pas aller en Pologne. Je ne voulais pas aller sur les lieux du crime, sur les lieux de l'assassinat. Parce que c'est en Pologne que ça s'est passé. En Allemagne, il y avait des camps de concentration. Il n'y avait pas un seul camp d'extermination en Allemagne. Il n'y avait pas une seule chambre à gaz en Allemagne. Bon. Et tout ça, c'était sur le territoire de la seule Pologne. Parce qu'à l'Est, on pouvait commettre tous les crimes qu'on voulait. Pour les nazis, c'était le lieu du vague, de l'indétermination absolue. Et ils savaient aussi qu'ils pouvaient compter sur une population dont ils réalisaient la plus secrète attente, si je puis dire. Donc je me disais, quand j'ai commencé à travailler à Shoah, je me disais, mais à quoi ça sert? Pourquoi aller en Pologne? La Shoah, on ne disait pas la Shoah à l'époque, on disait l'Holocauste. L'Holocauste, tu peux en parler partout. Où est-ce que c'est? Je me disais, c'est dans les cerveaux, dans les mémoires, dans les consciences, dans les chairs, quand elles étaient numérotées et matriculées, immatriculées. Et qu'est-ce que je verrais là-bas? Le rien, le néant, je ne voulais pas. Donc j'ai travaillé pendant plus de 4 ans, j'ai exploré le monde, j'ai interrogé des gens, j'ai compris quel film je voulais faire, quel film je devais faire, à savoir un film sur la mort et non pas sur la survie. C'est pas un film sur les survivants, Shoah. Il n'y a pas de survivants dans Shoah, il y a des revenants, c'est autre chose. Des gens qui reviennent d'au-delà du seuil du crématoire, d'une certaine façon. Aucun d'eux n'aurait dû survivre. Donc je me disais, on peut en parler de partout, on peut en parler de Sydney en Australie, de New York, de Los Angeles, de Paris, de Jérusalem, de Berlin, de n'importe où. Bon, et puis, la nécessité quand même, ou l'évidence, mais ça a mis du temps à venir chez moi, que je ne pourrais pas me passer de la Pologne, me passer des lieux de la mort, parce que simplement il y avait des choses que me racontaient non pas des survivants, mais des revenants, que je ne pouvais pas comprendre. Bon, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient à la lettre. Et donc, en me donnant des coups, en luttant contre moi-même, en me cravachant, je me suis enfin résolu, mais après 4 ans et demi de travail, à partir en Pologne. J'ai pris l'avion, je suis arrivé à Varsovie. J'avais une interprète qui m'attendait là-bas, qui était charmante, très intelligente. C'était la fille du premier président du Conseil d'État polonais, sous la Pologne communiste, Marina Ochab, Ochab on prononce. Elle était charmante, elle connaissait strictement rien à la Shoah, elle n'avait jamais mis les pieds dans aucun camp. Et ses parents, pendant la guerre, étaient en Union soviétique, elle était totalement ignorante. Et de toute façon, la mort des Juifs, ce n'était pas central là-bas, parce que tout ça était subsumé sous la catégorie générale de victimes du fascisme. Bon, tout le monde... Or, mon idée à moi, c'était de faire un film sur la mort des Juifs, et d'un point de vue de Juif, le mien. Et elle avait un défaut dirimant pour moi, cette adorable Marina, c'est qu'elle avait... Son père n'était pas juif, mais sa mère l'était. Elle avait tout pris de sa mère, elle avait un visage de juive. N'importe quel chasseur de faciès l'arrête aussitôt. Bon, et moi je suis assez doué pour les faciès. Mais enfin bon, je l'ai pris avec moi, je lui ai dit on part, je loue une voiture et on part demain matin à Treblinka. Treblinka, c'est à 80 km au nord-est de Varsovie. Donc je pars avec elle. Et où vais-je ? Je vais évidemment sur le site de ce qu'était le camp, le lieu de commémoration. Alors, le site de ce qu'était le camp, il faisait froid, c'était en hiver. Et vous avez là, bah, rien. Vous avez une chambre à gaz de pierre au sommet d'une pente. Et vous avez une fausse chambre à gaz, une chambre à gaz commémorative, des stèles qui portent les noms des villages et des shtetls, comme on dit, de Pologne, dont la population juive a été anéantie, et également des stèles plus hautes, qui porte le nom des pays où la tempête nazie est passée. Bon, et je suis resté là, je ne sais pas, 1 heure et demie peut-être, et n'éprouvant rien, je n'éprouvais rien. Je n'étais pas particulièrement ému, et je me disais peut-être que tu as le cœur sec. Peut-être ai-je le cœur sec, en effet. Et je me dis à moi-même, si je suis venu en Pologne pour ça, ça va pas être drôle et ça va être du temps perdu. Et donc j'ai dit à Marina, on s'en va, j'ai repris la voiture et j'ai tenté de rouler aux limites du camp, aux lisières du camp, mais c'est impossible, il n'y a pas de route. La frontière du camp est marquée par des pierres en forme de triangle isocèle tous les 300 mètres, 400 mètres. Bon, et alors j'ai commencé à rouler sur les routes, mais qui, quand même, autour du camp, à proximité du camp. Et soudain, je tombe sur des villages polonais habité par des gens de tous âges et quelqu'un de 60 ans alors, ça c'était en 1960, dans l'hiver 77-78. Quelqu'un de 40 ans à ce moment-là, quel âge avait-il en 1942 ? Il était quand même capable de comprendre ce qui s'est passé. Quelqu'un de 70 ans, il y en avait. Et puis des enfants de 15 ans en 1942, en 1978, c'était des adultes. Bon. Et puis c'était des villages anciens. Et l'ancienneté de ces villages se mesurait d'une façon très simple, non seulement à la boue paysanne ou à la façon dont les fermes étaient construites, enfin, elles exprimaient toute leur ancienneté, mais surtout les églises. Dans chaque village de Pologne, vous avez une église gigantesque qui, chez nous, serait une cathédrale. Et les églises, elles ne sont pas nées en quelques jours. Et les villages s'appellent, je me souviens des noms, Prostine, Poniatovo, Volga, Ogonglik. Et bon, je restais là, dans ma voiture, regardant, encore plus regardé que regardant, car il me regardait beaucoup. Et puis je vais de village en village et je me dis c'est quand même incroyable. Et je n'ai parlé à personne. Et puis je roule et puis je vois une pancarte qui annonce l'entrée d'un village en lettres noires sur fond jaune. Je lis Treblinka. Ça, c'était une stupéfaction extraordinaire parce que Treblinka, qui est le lieu de la mort absolue, où 600 000 juifs, enfants, femmes, hommes, ont été assassinés, gazés là-bas. Et moi, qui étais pourtant le contemporain de ces événements, j'aurais pu périr là-bas, ça me faisait une telle horreur que j'avais repoussé cela dans mon esprit à une distance très lointaine, à une sorte de distance stellaire. Et cela ne s'était pas passé, cela n'avait pas pu se passer de mon temps. J'avais rejeté ça hors de la durée humaine. Donc, je savais que tout ça était vrai, mais c'était presque légendaire pour moi, tellement je refusais cela. Or, découvrir un village qui s'appelle Treblinka, qui ose encore s'appeler Treblinka, après le crime immense dont son nom est le symbole absolu, ça me paraissait fou. Là, je commençais à m'agiter, à devenir très nerveux, et j'ai continué à rouler dans Treblinka, qui est un très minuscule village, et soudain je vois des rails, des trains, des longs trains, des longs convois de wagons de marchandises immobiles sur des voies latérales. Et je roule, et puis le quai était une sorte de talus herbu, d'herbe. Et puis, bon, j'arrête ma voiture, là. Et puis, je sors. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces wagons ? Est-ce que ce sont des wagons commémoratifs ? C'était pas du tout des wagons commémoratifs, il y avait un vrai trafic. La gare fonctionnait. Ils étaient là, c'est sur une voie sur des voies de garage. Et je traverse et j'arrive sur le quai principal et puis je vois la pancarte. orgueilleuse presque, Treblinka, qui pouvait être lue par les voyageurs venant de l'amont ou venant de l'aval, bon, avec le nom doublé sur chaque face. Et ça, ça a été un choc, ça a été une déflagration. Parce que jusque-là, finalement, je répète, je ne voulais pas aller en Pologne, mais j'avais travaillé énormément. J'avais vu beaucoup de gens dans beaucoup de pays. Et j'étais comme une bombe chargée de savoir, de connaissances. J'avais même tourné un peu avant, mais parce que je pensais que les gens avec qui je tournais ne vivraient pas assez longtemps et je voulais le faire tout de suite. J'avais tourné avec le nazi de Treblinka. J'étais, donc je répète, comme une bombe, mais le détonateur manquait. Et le détonateur, ça a été ça. Ça a été la rencontre d'un nom et d'un lieu. Ça a été comme le Lièvre, comme Milan, en beaucoup plus fort. Je suis entré dans un état, un véritable état d'hallucination vraie. Et puis, soudain, c'est devenu d'une urgence extrême. Pour moi, je travaillais depuis 4 ans et demi, je ne sais plus. J'ai dit, il y a trop... Il faut que je me mette à tourner tout de suite. Et ça, c'était en février ou mars. Et j'ai commencé à tourner à Treblinka, en juillet. Je me souviens, les premiers plans que j'ai faits, c'est sur le Boug. Et c'est au cours de cette première nuit, parce que j'ai parlé à des gens de Treblinka, en particulier aux gros paysans à la chemise ou au polo, je ne sais pas, tout rouge, celui qui fait ça. Et puis en discutant avec lui, avec d'autres, la nuit était tombée complètement. Et quelqu'un me dit, je cherchais des conducteurs de locomotive. Et quelqu'un me dit, mais il y en a un qui où est-il? Il est à Malkinia. C'est où? Ça a une dizaine de kilomètres. Très bien. Et j'étais vraiment le premier homme qui revenait sur les lieux du crime. Ils avaient un désir de parler incroyable. Et donc j'arrive à minuit, à Malkinia, ne sachant pas où c'était. Enfin bon, réveillant des gens, etc. Mais j'étais fou. Et finalement, j'ai trouvé la ferme dans laquelle vivait le conducteur de la locomotive. On a frappé beaucoup, car il n'entendait pas. Et puis finalement, j'ai entendu des pas rapides, ouvert la porte, et c'était sa femme. Une petite femme polonaise en fichu de paysanne. On la voit d'ailleurs dans Shoah, dans le film. Et alors elle explique que... Elle était adorable. Elle explique que son mari dort, elle va le réveiller, et je vois mon Henryk Gawkowski, le conducteur qui est emblématique du film, descendre en se frottant les yeux. Et c'était un type... on dit que Shoah est un film anti-polonais, c'est pas vrai du tout. Ce type, je l'aime, qui a conduit je ne sais combien de convois de juifs à la mort. Il portait une blessure ouverte. Et je lui ai dit, écoutez, on n'a rien mangé depuis hier soir, parce que le matin, on n'avait pratiquement rien mangé, on mourait de faim. Alors ils ont sorti de leur garde-manger toutes sortes de victuailles, de cochonailles, enfin, etc. Et puis de la vodka, c'était un bonheur total. La vodka, c'est génial comme moyen de lutte contre le froid. Ça m'a sauvé la vie à plusieurs reprises à Treblinka pendant que je tournais en hiver. Et bon, et j'ai vu qu'il fallait que j'arrête, que je devais arrêter. Et parce que j'allais déflorer, ou ils avaient défloré tout ce que je, ils allaient déflorer tout ce que je souhaitais qu'ils me disent. Et donc je lui ai dit, je reviendrai. Je reviendrai, et puis on tournera. Il acceptait tout. Et en effet, je suis revenu en juillet. C'est par lui que j'ai commencé à tourner. Et ça, c'était la déflagration. Treblinka, c'était pas un décor. Voilà, je sais pas si j'en ai dit assez là-dessus. Mais Shoah aussi, c'est l'incarnation. Les larmes du coiffeur de Treblinka dans Shoah, elles sont précieuses pour moi comme du sang. C'est le sceau du vrai, le sceau de la vérité. Stamp of truth. C'est l'incarnation. C'est pas... Et au début, quand il essaye de parler, il désincarne tant qu'il peut. Il fait comme si... Il essaye de raconter d'une voix objective, comme si ça ne lui était pas arrivé à lui. Mais sous mes questions, avec le temps, soudain, il se brise. Voilà, c'est pas du tout sadique comme scène, comme quelques cons... l'on dit, c'est une scène fraternelle. Il dit, nous devons le faire, nous, ensemble. Voilà.